Aujourd'hui, il est question de Saint Marc Roy. Ça peut surprendre des gens qui s'appellent Marc Roy. J'en profite pour dédier cette émission à l'abbé Marc Roy, qui a été longtemps vicaire à la cathédrale, qui, malgré des difficultés physiques, célèbre quand même toujours la messe à la cathédrale de Montréal. Saint Marc Roy, en entrant chez les Capucins, a pris le nom de Fidèle de Sigmaringen, et on le connaît souvent sous le nom de Saint Fidèle de Sigmaringen. Sigmaringen, c'est le village natal, son village natal. C'est donc un Capucin qui est mort, pour ainsi dire, martyr en 1522. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Dans le prions en église aujourd'hui, il est question de ce saint fidèle de Sigmaringen, Marc Roy, originaire de la Souabe, dit-on en Allemagne. Il est d'abord instituteur, puis il devient avocat. Et ne se plaît pas tellement comme avocat, sa délicatesse à l'égard des pauvres, ça ne va pas toujours quand on est avocat. Alors il se fait capucin, après avoir été ordonné prêtre. Le jour même de sa première messe, sous le nom de Fidèle de Sigmaringen, son village natal, il s'efforce de convertir les grisons. C'est un état libre à l'époque, qui fait partie de la Suisse aujourd'hui. Il y avait là des protestants qui étaient en révolte contre l'Autriche qui avait pris possession des grisons. Et l'Autriche était plutôt catholique. Alors, il a été assassiné dans une église de Suisse alors qu'il prêchait. En fait, il a été attaqué là, mais il a été assassiné à l'extérieur, dans un pré, en 1622, par des protestants. C'est extrêmement délicat de traiter cette question-là en pleine période d'écuménisme, et je voudrais exactement situer la chose à l'époque. Et il ne faudrait pas en vouloir aux protestants, puisque nous, catholiques, nous en faisions, pour ainsi dire, autant. C'était les guerres de religion à cette époque. Ça a ensanglanté l'Europe. Ce qu'on peut être idiot, hein? Mais il faut expliquer aussi pourquoi il y avait des guerres de religion. Et ça s'explique que c'est dans la seconde moitié du XVIe siècle, les protestants, qu'on appelle souvent les réformés, à la suite de Luther et de Calvin, Calvin dont je vous parlerai le mois prochain, Luther, je vous en ai parlé le 16 février, 1996, il y a un peu plus d'un an, eh bien, ils ont suscité évidemment cette réforme, et puis à la fin du XVIe siècle ont commencé les troubles, donc 50 ans plus tard. Rien qu'en France, on prétend qu'il y a eu 8 guerres successives qui semblent avoir fait des centaines de milliers de morts. C'est terrible. Alors simplement en France, surtout, hein. Alors, la réforme luthérienne a entraîné en France un bouillonnement d'idées. Mais ça n'a pas suscité, au pays de nos ancêtres, de mouvements organisés. Quand je dis nos ancêtres, je m'adresse à la majorité des auditeurs qui sont, comme moi, des Français d'origine. Et alors, on attendait depuis longtemps dans l'Église un renouveau de la foi. Parce que l'Église était pas mal décadente, hein? Et puis on voulait un renouveau de la vie chrétienne. Alors les humanistes à l'époque, je vous ai déjà parlé de Erasme, le 25 octobre de l'an dernier, c'est l'un des plus grands humanistes de l'époque. Eh bien les humanistes ont salué avec joie, on peut dire, les divers mouvements qu'on appelait évangélistes, pas évangéliques, mais évangélistes, donc à l'intérieur de l'Église, qui prêchaient un retour aux sources du christianisme. Ils ont même salué ceux qui se sont détachés de nous. Erasme, justement, à Rotterdam, en Hollande aujourd'hui, ont donné l'exemple d'un tel retour aux sources, dans la fidélité à l'Église. Hein? Il était resté fidèle à l'Église, lui, il n'a pas cru devoir faire une réforme en dehors. Hein? J'avais bien insisté là-dessus. François Ier, qui connaît pas François Ier, le roi de France, sous lequel le Canada a été découvert, eh bien François Ier lui-même, par un calcul politique, puis par conviction personnelle aussi, il a, au début, suivi avec sympathie ce qui semblait un rajeunissement du catholicisme, du christianisme. Puis la cour, autour du roi, est restée très longtemps favorable aux novateurs, à ceux qui faisaient la réforme. Ça a facilité la pénétration des idées nouvelles dans les élites en France. Les idées de Luther, de Zwingli en Suisse, de Bucer et bientôt de Calvin, réfugié à Genève, lui, depuis le 1541. Je vous ferai donc une émission sur Calvin le 27 mai. Ce sera l'anniversaire de son décès, je crois. Alors, ces idées-là faisaient ainsi leur chemin, puis ça pénétrait une partie de la bourgeoisie puis de la moyenne noblesse. Ces gens-là qui se piquaient de culture et d'ouverture d'esprit, souvent avec raison d'ailleurs. Le roi de Navarre, Antoine de Bourbon, puis l'amiral de Coligny, sont devenus des réformés. Ils ont quitté l'Église. Il y avait des gens très très bien, très sérieux, hein, qui ont participé à cette réforme protestante. Et les réformés, bien avec l'ardeur des convertis, s'attaquaient de plein fouet à la messe qu'ils jugeaient être un ensemble de choses plutôt décadentes et de simagrées. On voulait retourner à une scène, la sainte scène, célébrée plus simplement, plus près de ce que Jésus a vraiment fait, ce que le Concile Vatican II vient de faire en un sens. Ils se sont attaqués au culte de la Vierge Marie, c'était terrible, ça, parce qu'ils considéraient qu'il y avait des exagérations. Ils se sont attaqués au pape, le pape qui portait la tiare, qui possédait d'immenses états, qui manipulait énormément d'argent. Il y avait eu Alexandre VI, ce pape infâme, qui avait des enfants. C'était une époque terrible, hein? Alors ils se sont attaqués à la papauté, puis au gouvernement du pape. Tout ça, c'était des manifestations qui ont ressemblé assez rapidement à des provocations pour les catholiques. C'est ce qui se passe un peu actuellement dans l'Église. Il y a des livres qui paraissent, il y a des gens qui critiquent l'Église de façon tellement terrible actuellement qu'on sent pas l'amour pour l'Église. On sent pas, comme chez Erasme, le désir de garder l'unité. Alors, lorsqu'on a pris conscience de la situation en 1560... Mais le parti calviniste était déjà constitué puis occupait d'importants bastions en France. Alors des efforts malheureux de conciliation ont paru donner raison aux partisans de la manière forte, pour qui les tergiversations, les incertitudes de la cour étaient seules responsables de l'extension de cette hérésie. On considérait ça évidemment comme une hérésie. Et voilà le nœud de l'histoire, c'est qu'on considérait à l'époque que deux religions ne pouvaient décidément pas coexister dans un pays, et particulièrement là, en France. Alors du côté calviniste, on assistait à un raidissement progressif, pour au passage d'un loyalisme affiché vis-à-vis de l'autorité royale, à une apologie de l'insurrection. Il fallait s'insurger contre le roi, pour renverser ce pouvoir tyrannique. Au début, on admirait le roi. Maintenant, on voulait l'abattre. L'affaire devenait donc politique. Elle a été réglée alternativement par des armes, aussi par la diplomatie. La cour de France s'est trouvée prise entre deux partis organisés, celui du roi de Navarre et celui des Guises. Et alors là, les adversaires en présence ont durci progressivement leur position. Et puis, ils n'hésitaient pas à recourir même à des pays étrangers pour anéantir l'adversaire. Alors là, le parti de la conciliation a fini par l'emporter, heureusement. Avec l'abjuration du roi Henri de Navarre, puis de l'édit de Nantes, c'est une France finalement ensanglantée, terrible et meurtrie, qui a reçu le successeur de Saint-Louis, dont je vais vous parler demain, Saint-Louis. Fameux roi de France, Louis IX. Le même drame renaît au XVIIe siècle. Ça recommence lorsque Louis XIV, au fait de sa puissance, croit pouvoir établir l'unité religieuse de son royaume. C'est toujours l'unité religieuse, ils y tiennent beaucoup dans ce temps-là. Hein? L'unité religieuse de son royaume en supprimant, croit, les franchises dont avait bénéficié le culte protestant depuis Henri IV. Alors cette persécution, dont les initiateurs n'avait pas sans doute perçu toute l'ampleur que ça prendrait à priver la France d'une partie de son élite qui s'est exilée, puis ça a préparé la Révolution française. Alors, le rôle de l'Église dans les guerres de religion est complexe. C'est très important de savoir ça. Il y a des voix qui se sont élevées de très haut, même le pape, se sont élevées pour réclamer la conciliation, la paix, le respect mutuel. Il y a le pape Paul III qui s'est prononcé comme ça, qui rappelait d'ailleurs au roi François Ier, il disait « Dieu le Créateur a plus usé de miséricorde que de rigoureuse justice. » Il était contre les attitudes trop fortes à l'égard des protestants. Et les calvinistes ont trouvé des appuis au prix de certains membres du haut clergé. Bien oui. Mais il y a eu aussi des catholiques belliqueux qui ont répandu la discorde, qui avaient le cœur sec. Et chose surprenante, c'était surtout dans les ordres mendiants, comme les franciscains puis les capucins. Comment ça se fait? Parce qu'ils étaient plus au contact du peuple. Puis ils ont vu l'inquiétude du peuple. Mais c'est pas une raison de devenir violent. Et à partir du moment où la lutte a été déclenchée, il est devenu plus difficile de se tenir au-dessus de la mêlée. Et là, les papes, sans avoir encouragé les massacres, paraissent à un certain moment avoir souhaité la victoire de la Ligue, comme on l'appelait, et ont soutenu plus tard Louis XIV dans sa lutte contre le protestantisme. Alors, personne au XVIe siècle ne concevait clairement, on peut dire, la possibilité d'un État laïque, hein, neutre, comme on les a aujourd'hui en Occident, dans le domaine religieux. Neutre dans le domaine religieux. Puis les protestants, moins que quiconque. Hein. Luther écrivait en 1525, il n'y allait pas de main morte, lui, tout de suite après la Réforme. Là. Dans un même lieu, il ne peut y avoir qu'une seule espèce de prédication, c'est ce qu'il disait. Donc, tous les torts sont pas du côté des catholiques. La liberté de conscience que les protestants vont revendiquer plus tard était farouchement condamnée par les premiers calvinistes. Pensons à Théodore de Bèze, qui était le disciple et le successeur de Calvin. Il dit « C'est un dogme vraiment diabolique que d'autoriser n'importe qui à périr par son propre caprice. » Alors, il s'agissait de rien moins pour les adeptes de la religion nouvelle que de balayer ce qu'ils appelaient les superstitions catholiques, en s'assurant la direction de l'État, puis en mettant la main sur la personne du roi. Alors, la réaction des autorités, qui est venue un peu trop tardive et hésitante, n'a été souvent qu'une riposte maladroite, de peur devant une conspiration calviniste. Et alors, on s'aperçoit aussi que toutes les dissidences doctrinales, ça reste rarement au niveau des débats d'idées, mais elles prennent très vite une dimension politique, voire économique. C'est comme en Irlande du Nord, on dit les catholiques, les protestants. C'est pas les catholiques, les protestants. C'est des gens qui veulent rester unis à la couronne d'Angleterre et qui sont d'origine écossaise et protestante. Et les autres, qui sont des Irlandais catholiques de l'île, mais qui habitent le Nord, veulent l'union avec le Sud. Et ça donne à être catholique. C'est une querelle politique. Alors, de toute façon, les expressions de conflits humains sont sous-jacents ou les sources de positions nouvelles, les déchirures doctrinales, tout ça augmente. Et lorsqu'on en est arrivé, les catholiques ne peuvent se tenir au-dessus de la mêlée. Hein? Et là, en luttant pour défendre leurs droits, ben ils évitent un plus grand mal, c'est le point de vue catholique. Mais ils doivent tout faire, quoi, pour que s'établisse au plus tôt un climat de paix et de tolérance, là, dans lequel le dialogue va pouvoir être renoué. Et c'est ça que fidèle de Sigmaringen, dont on célèbre aujourd'hui, a essayé de faire, en espérant que la vitalité du catholicisme va entraîner peu à peu les frères séparés, ce qui s'est passé en Pologne, elle aussi très touchée par le protestantisme et dans une moindre mesure dans la France du XVIIe siècle. Il veut l'union, l'unité de l'Église telle que souhaitée par Jésus, qui nous demande d'être un. Marc Roy, ou Marc Ray, R-E-Y, si on préfère, Marc Roy est né en 1577, de parents catholiques. Sa famille était originaire d'Anvers. Et il est né dans la ville de Sigmaringen, la principauté de Hohenzollern. Après ses humanités, ses études classiques, si vous voulez, on l'envoie à Fribourg pour y étudier la philosophie, obtenir ses grades. C'est un jeune homme sage, une conduite très régulière. Ça lui vaut le surnom, d'ailleurs, assez curieux pour l'époque, pour nous aujourd'hui, de philosophes chrétiens. Les grandes austérités qu'il pratique alors lui ont permis de surmonter les premiers assauts des passions des jeunes gens. C'était comme ça à l'époque, hein. On pratiquait des austérités assez féroces. Aujourd'hui, je crois qu'une bonne discipline solide, courageuse, peut remplacer ces excès. Alors, trois jeunes gentilshommes, les fils du comte de Stotzingen, s'intéressent à lui et lui demandent d'être leur guide, parce qu'ils veulent visiter l'Europe. Il accepte de les accompagner, à la condition qu'ils vont lui laisser le temps d'accomplir ses prières, ses exercices de piété. C'est un jeune homme très pieux, et puis très intelligent. Et ils vont le considérer un peu comme un père et un ami, plutôt que comme un guide ou un gouverneur, une gouvernante, un gouverneur. Et ce voyage va durer 6 ans, c'est quelque chose, hein? Alors les trois jeunes comtes, qu'on appelle souvent des princes, ont rendu ce grand témoignage que Marc Roy était toujours fidèle à ses résolutions. Il a toujours donné partout de grands exemples, dit-on, de pratique de la vertu, d'une conduite exemplaire. Il est attentif d'abord à soulager les malades dans les hôpitaux. Il faisait son oraison, il priait dans les églises, visitait le Saint-Sacrement. Puis, il allait même parfois jusqu'à donner aux pauvres ses propres habits. Ça rappelle l'abbé Maurice Zundel, dont on parle souvent à Radio Ville-Marie, Maurice Zundel qui a vécu au XXe siècle, et puis qui est mort il n'y a pas si longtemps, et qui donnait souvent son manteau neuf aux pauvres, sa gouvernante, sa femme, la femme qui s'occupait de lui pour le soigner, puis lui faire à manger, se plaignait de ça. Alors Saint-Marc Roy s'est rendu ensuite à Dillingen pour s'y perfectionner dans la connaissance des lois, puis se préparer la profession d'avocat, qu'il va exercer un peu plus tard à Colmar, en Alsace, aujourd'hui. Et puis, la crainte de commettre quelque injustice comme avocat lui a fait abandonner cette carrière. Il n'aimait pas ça, de toute façon. Et sous l'action de la grâce de Dieu, bien, il a résolu d'abandonner le monde. Sous le conseil d'un évêque aussi. Il a opté pour les Capucins, qui lui ont paru réunir les deux mérites de la vie active et de la vie contemplative. On peut avoir une grande admiration pour la grande majorité des Capucins dans le monde. C'est un des grands ordres. Ce sont des fils de Saint-François, des disciples de Saint-François, comme les franciscains. Vous savez qu'il y a des franciscains bruns, puis il y a des franciscains noirs, qu'on dit conventuels, puis il y a les Capucins. Ils portent souvent la barbe. Il est donc allé faire connaître sa résolution au provincial des Capucins de Fribourg. Mais avant d'entrer en religion, donc sous l'influence de l'évêque de Constance, il a voulu recevoir tous les ordres sacrés, donc le sous-diaconat, le diaconat, la prêtrise, c'était comme ça à l'époque, aujourd'hui il n'y a plus de sous-diaconat, et il voulait pouvoir offrir chaque jour le Saint-Sacrifice de la Messe. Il attachait une énorme importance à l'Eucharistie, et toute liberté lui a été donnée, pour fixer lui-même l'époque de son entrée chez les Capucins. Alors, il a commencé par revêtir l'habit ecclésiastique ordinaire, des prêtres, puis a demandé à Rome la dispense des longueurs là, pour recevoir la prêtrise. Il l'a reçu en peu de temps, étant donné qu'il était déjà avocat, il a fait de bonnes études, il a fait des études de théologie, il connaissait bien sa religion, tout ça. Il était ordonné prêtre. C'est un peu avant, comme vous voyez, l'établissement vraiment des grands séminaires. Et ordonné prêtre, là, il est allé le 4 octobre 1612, le lendemain, célébrer sa première messe au couvent des Capucins, où il a reçu tout de suite du père gardien. Le père gardien, c'est le père supérieur, si vous voulez, on appelle ça des gardiens, n'est-ce pas, comme je vous ai expliqué hier. Il a reçu l'habit des novices avec le nom de Fidèle. Donc, il ne s'appellera plus Marc Roy, mais bien Fidèle de Sigmaringen. C'est toujours été son nom jusqu'à sa mort. Son frère Georges, d'ailleurs, était déjà capucin depuis 8 ans sous le nom de Père Apollinaire. Il va mourir, lui, au service des pestiférés en 1629. C'était aussi une âme de saint. Et dès les premiers jours de son noviciat, il n'y a rien qui a pu ralentir sa ferveur, les humiliations, les austérités, les jeûnes, tout ça, ça faisait ses délices, une mentalité comme ça, quoi. Une mentalité saine, quand même, hein? Les observances les plus pénibles, surtout, lui ont paru douces, parce que les observances chez les Capucins étaient très, très dures, jusqu'à tout récemment, hein? Faut lire les écrits de l'abbé Pierre, qui a été Capucin. Quand il nous parle de son noviciat chez les Capucins, c'est pas facile. Oh là là, et cependant, les tentations ont assailli notre Marc Roy, fidèle de Sigmaringen, et on dit que il recevait des suggestions intérieures, comme des doutes, lui représentant le bien qu'il aurait pu faire s'il était demeuré dans le monde. Il a failli être ébranlé par tout ça. Il s'est adressé à Dieu, puis il a prié solidement. Il est allé trouver son maître des novices pour lui exposer son état d'âme, et bientôt, la paix, puis la force, sont revenus en lui. Hein? Ça rappelle un peu Thérèse de l'Enfant Jésus. Et pour rompre à tout jamais avec le monde, il a fait venir un notaire avec la permission du supérieur, puis a consacré tous ses biens, puis il était riche, à une fondation qui assurerait aux jeunes ecclésiastiques les moyens de continuer leurs études et payer quoi pour l'œuvre des vocations, dirait-on aujourd'hui. Et ainsi, dépouillé de tout, il s'est disposé à entrer pour toujours dans la pauvreté. Les pauvretés des fils de Saint-François. Alors admis d'une voix unanime à faire profession, donc le 4 octobre 1613, il a voulu, avant cet acte, écrire de sa propre main le testament, où se révèlent les sentiments de son âme. C'est écrit comme l'évangile de ma règle, « M'ordonne de vendre tous mes biens et de les distribuer aux pauvres, j'ai résolu, conclu et arrêté, de donner ce que je possède aux pauvres et de me consacrer moi-même par une profession solennelle, éternelle, irrévocable, à Jésus-Christ qui est le vrai trésor, la voie assurée, la vérité infaillible et la vie éternelle. Et afin d'imiter parfaitement mon Sauveur, je me propose, avec l'aide du Seigneur, de vivre constamment dans une extrême pauvreté, chasteté et obéissance, dans les souffrances et les persécutions, dans une austère pénitence, une profonde humilité, un sincère amour tout le reste de ma vie. Comme je suis sorti nu du sein de ma mère, de même dépouillé de toutes les choses de la terre, je m'abandonne nu entre les bras de Jésus-Christ mon Sauveur. Et dès lors, pénétré de l'étendue de son vœu de pauvreté, il ne s'est plus attaché à rien. La pauvreté totale. En même temps, les austérités, souvent assez rudes, ont été à ses yeux l'accompagnement nécessaire de la pauvreté. Il était d'une humilité profonde. Il s'est regardé comme le dernier de ses frères. Lui qui était avocat, qui avait été instituteur, considérait les occupations les plus viles comme trop honorables pour lui. Il avait une grande dévotion envers la Sainte Vierge qui lui est paru le moyen le plus propre pour faire des progrès dans la vertu puis pour éviter la tiédeur et le relâchement. Et alors, Providence le destina de grands emplois, et quand il a eu achevé son cours de théologie à Constance, il a été nommé gardien du couvent de Velkirken. Et il a été gardien comme ça de différents couvents jusqu'à sa mort. Et nous verrons la suite tout à l'heure qui va le mener jusqu'au martyre. Saint Marc Roy avait beaucoup de goût pour prêcher au peuple. Comme notre abbé Marc Roy, oh qu'il aime prêcher, on le sent, hein? Et Saint Marc Roy a supporté avec courage les fatigues de ce ministère difficile. Déjà, il s'intéresse aux protestants. Il obtient leur confiance parce que ce Saint Marc Roy n'a pas d'esprit de chicane, comme on dit dans une grande encyclopédie. Les protestants l'appellent « ange de la paix ». Ils ont un grand respect pour lui, hein? Ange de la paix. Il sentait bien combien il lui serait glorieux d'être victime de sa charité pour le salut de ses frères protestants. On l'a vu alors parcourir les villes et villages pour y prêcher la pénitence et l'amour. Il ne montait en chair qu'après une méditation d'une demi-heure devant le Très-Saint-Sacrement. Il croyait aux fruits de l'Esprit-Saint, à l'action de Jésus en lui pour lui faire dire les paroles qu'il fallait. Le thème habituel de ses prédications, de ses instructions, était, comme on le faisait souvent à l'époque et jusqu'à tout récemment, les fins dernières. Les fins dernières de l'homme, c'est pas mauvais au fond. Sait-on pourquoi nous sommes sur la terre si ce n'est que pour être embrassés par Dieu pour l'éternité? Nous serons dans le sein de Dieu pour toujours. Ce sont nos fins dernières, c'est le but de notre vie. Et ce bonheur commence dès ici-bas, car la vie éternelle nous habite dès ici-bas, si nous croyons. Et si nous devenons des tabernacles de la Trinité, si nous pouvons dire comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, c'est le bonheur total. Mais déjà quand on est même un grand pécheur, et que l'on sait que Dieu nous habite, il y a une joie, nous ne sommes jamais seuls, et c'est la joie déjà qui préfigure celle du ciel. Il prêchait donc sur les fins dernières de l'homme. Il invectivait hardiment contre les désordres de toutes les conditions qu'on a pratiquées dans le temps, là. Le luxe exagéré de certaines femmes et d'hommes vaniteux. L'injustice des magistrats, des juges, etc. Il s'attaquait à ça. Bientôt, la ville de Velkirken, où il était gardien du couvent des Capucins, s'est renouvelée. Elle a changé de face. On se serait cru au temps où les premiers fidèles exprimaient, vous savez, dans les Actes des Apôtres, ils exprimaient en leur personne les dons reçus des apôtres, et on voit ça dans les Actes des Apôtres. Alors pour prévenir le retour des désordres, le bon père Marc Roy, ou fidèle de Sigmaringen, a demandé au Sénat de faire publier les règlements qu'il avait dressés. Il a porté aussi un édit contre les libelles hérétiques, parce que les protestants, parfois, attaquaient les catholiques et exagéraient, disaient des choses qui n'étaient pas vraies. Et lui-même entrait chez les libraires, et partout où il trouvait de ses écrits violents, il les jetait au feu. Une dame protestante, qui était passée à la réforme, a osé interrompre son sermon sur le purgatoire et se moquer publiquement de ce qu'il disait sur le purgatoire. Alors, le bon saint, fidèle de Sigmaringen, bon missionnaire, est allé la trouver chez elle. Il a essayé de la gagner par sa douceur et la force de ses raisons. N'oubliez pas, les protestants l'appelaient lui-même « ange de la paix ». Alors, il a trouvé opiniâtre dans son erreur. Alors, il a demandé qu'on l'exile hors de la ville. Et il faisait ça non par colère ou ressentiment, car en même temps, il priait Dieu jour et nuit, pour éclairer l'esprit de cette femme. Il a eu enfin le bonheur d'obtenir la conversion de cette femme, qui est revenue à la grande église catholique. Soucieux d'assurer son propre avancement spirituel, eh bien, saint Marc Roy a voulu s'enfermer dans un couvent, puis reprendre les exercices qu'on pratique dans un cloître. Il s'est retiré donc au milieu de ses religieux, les a édifiés par son humilité, sa douceur aussi, sa grande modestie, son amour du silence et de la solitude. Et puis, il ne cherchait qu'à rendre service. Il aimait rendre service. Un jour, l'armée de l'empereur, qui était cantonnée dans les environs de Veldkirchen, a été décimée par une maladie contagieuse qui s'est communiquée aux familles de la ville. Les épidémies étaient nombreuses dans le temps. Alors le père fidèle de Sigmaringen, Marc Roy, est sorti de sa retraite. Il est allé visiter les habitations infectées, puis les hôpitaux, puis il est allé jusque dans les prisons, puis a procuré des remèdes aux malades qui n'avaient pas pu en obtenir. Et Dieu, par des miracles, en est venu à aider son serviteur, saint fidèle. Puis, à une dame malade à l'extrémité, là, qui était vraiment rendue à la mort, bien, saint Marc Roy a déclaré que dans peu de temps, elle recouvrerait la santé. Il s'est mis en prière pour demander cette grâce, puis c'est bien arrivé. Contre toute attente des médecins, elle était guérie. Mais cependant, l'hérésie protestante, c'est ce qu'on disait dans le temps, l'hérésie, Hérésie, vous savez, il ne faut pas se sentir blessé quand je dis ça. Je le dis avec tout le respect que j'ai pour des gens qui veulent réformer l'Église, qui veulent transformer des choses et qui ont cru bon de le faire à l'extérieur. Je comprends. Vous savez que c'est pas toujours facile de rester dans l'Église avec joie et amour en dépit de ses faiblesses, mais il y a tellement de joie quand même d'être dans cette Église catholique. Quand on voit tous ces saints, tous ces gens merveilleux qui y ont vécu et qui y vivent encore, et quand on sait l'appel de Jésus à l'unité. Donc l'hérésie continue ses ravages dans une grande partie de la Suisse, notamment chez les Grisons. Qu'est-ce que c'est ça, le pays des Grisons, qui va devenir un canton de la République suisse seulement en 1798, dépendait alors de l'Autriche qui avait mis la main dessus. Les habitants étaient passés en nombre au protestantisme dès 1608. Donc, au moment un peu là où vit Saint-Fidèle. Puis il s'était révolté contre l'autorité autrichienne. Puis un récent traité signé à Milan, dans le nord de l'Italie, en janvier 1622, reconnaissait quelques droits aux Grisons, mais ça rétablissait la puissance de l'Autriche. Les Grisons en avaient marre. Les protestants en avaient marre. Alors, il va donc chez les Grisons et pour arrêter le cours de la propagation du protestantisme, eh bien, la congrégation de ce qu'on appelle la propagande, on n'aime pas le mot aujourd'hui, on appelle ça autrement, les missions, si on veut, demanda aux Capucins des missionnaires zélés. Là, le révérend père Fidèle, Saint Fidèle, a été choisi pour diriger cette mission, puis il a accepté avec un vif désir d'y gagner, au besoin, la couronne du martyr. Mais Dieu, sans doute, lui a révélé le sort glorieux qui l'attendait, car dans les adieux aux habitants de Velkirken, Saint Marc Roy leur a déclaré qu'il ne le reverrait plus, qu'il était appelé à donner sa vie pour notre Seigneur. Il a accordé sa bénédiction à ses religieux qui restaient dans le couvent, puis il a dit à ses compagnons, « Et maintenant partons, mes frères, où la grâce de Dieu nous appelle. La moisson presse. » Alors la première conquête a été un gentilhomme qui s'appelait Adolphe de Salès. Élevé dans le protestantisme, c'était un grand défenseur du protestantisme. Après un sermon de Saint-Fidèle, il est allé le trouver. Il a pris le parti de s'instruire à fond, puis finalement il s'est avoué vaincu. Il y a un excellent livre qui se vend actuellement aux éditions Marie et notre temps, de Jésus-Marie notre temps, là. Un livre très intéressant d'un couple qui, fils d'un pasteur presbytérien, etc., qui ont étudié comme ça à fond et qui sont devenus catholiques tous les deux. C'est très, très beau à dire, très, très beau à lire parce qu'ils ont énormément de respect pour le protestantisme. Alors, beaucoup l'ont imité, cet Adolphe de Salès. Au début de l'année 1622, alors qu'il a 44 ans, il est entré dans une partie du pays des Grisons, qui appartient, comme je vous l'ai dit, à l'Autriche catholique, conquis. Et le père Fidèle est monté en chaire le jour de l'Épiphanie, puis a charmé son auditoire. Il parlait tellement bien, puis il y avait une fermeté dans sa voix, puis une diction noble. Puis la sainteté se reflétait surtout sur son visage. Alors les protestants se sont alarmés. Ils ont résolu d'arrêter à tout prix les triomphes qu'ils remportaient. Même s'il fallait le faire mourir, hein, il faut se mettre dans l'esprit de l'époque toujours, hein. Ils veulent ça pour le bien, au fond. C'est une étrange conception. Hein. Alors, ils ont convenu de provoquer une espèce de sédition pour secouer le joug de la maison d'Autriche, pour retrouver la liberté des Grisons. Alors, le missionnaire a connu ce projet, il s'est entendu parler de ça, mais averti les principaux, les chefs du pays. Il a fait prévenir un officier de l'empereur. Les Grisons se révoltent, en effet. Ils taillent en pièces les troupes impériales d'Autriche, ils s'emparent des postes de défense, profanent les églises, inquiètent les catholiques. Là, Saint-Fidèle ne pense plus qu'à se disposer à la mort. Il passe des nuits entières devant le Très-Saint-Sacrement ou devant un crucifix. Il implore la Sainte Vierge de ne pas l'abandonner. Et le père Fidèle, mais il remportait de rapides succès, il convertissait des chefs influents, hein, comme Salès, mais aussi Gopfer, Gugelberg, Planta. Alors les réformés ont donc décidé sa mort. Et le 24 avril, c'est l'anniversaire, 1622, il entre à Grisch. C'est un gros bourg où les Grisons étaient retranchés contre les troupes impériales d'Autriche, là. Il se confesse Ô Père qui l'accompagne, notre saint fidèle. Il célèbre la sainte messe, il monte en chair. Les catholiques ont avoué ne l'avoir jamais entendu parler avec autant de force et d'éloquence. À la fin de son sermon, il tombe en extase. Dieu lui révèle que ce jour-là même, il va recevoir la couronne du martyr. Cette révélation ranime son zèle, ça lui rend la voix, ça fortifie son courage. Alors en descendant de la chair, vous savez, on montait dans la chair dans ce temps-là, nous les gens plus âgés, on sait ça, les jeunes ne savent peut-être pas ça. Ils prêchaient en haut, assez haut pour être entendu de tout le monde, il n'y avait pas de microphone dans le temps. Hein. Alors en descendant de la chair, il dit à son compagnon, « Restez ici pour entendre des confessions. Je m'en vais prêcher à Sévice, où vous savez que les catholiques m'attendent. Je n'ignore pas ce qui doit m'arriver. Adieu, priez pour moi. » Il est parti. Et en route, il a rencontré un catholique qui lui a demandé où il allait avec tant de précipitation. Ce catholique, après avoir reçu sa réponse, a ajouté, « Mais si les hérétiques vous attaquent, que ferez-vous ? » Et il a dit, « Je ferai ce qu'ont fait tous les martyrs. Comme eux, j'accepterai la mort avec joie pour l'amour de notre Seigneur, et je la regarderai comme une grande grâce pour moi. » Alors il arrive à Sévice, il assemble les catholiques au son des cloches, il monte en chaire, puis là il engage ses auditeurs à rester fidèles à leurs promesses. Il leur recommande de prier pour lui. Et vers la fin du sermon, on entend crier « Aux armes !» C'étaient les troupes de l'empereur qui venaient forcer les grisons dans leur poste. Alors les grisons ont cru que le père avait appelé les troupes impériales, dont on prit occasion pour le maltraiter. Et un d'entre eux a tiré sur lui pendant qu'il était encore dans l'église, mais le coup l'a pas atteint. Alors, Saint-Marc-Roy a compris, Saint-Fidèle de Sigmaringen, si vous préférez, a compris que son heure n'était arrivée. Il a voulu sortir sur la place et un catholique l'a retenu puis a dit « Attendez, lui dit-il, que la colère des rebelles soit un peu calmée. » Et lui, il a répondu « Je vous remercie de votre charité. Mais ne vous inquiétez pas, mon sujet, je ne crains pas la mort. Il y a longtemps que j'ai fait à Dieu le sacrifice de ma vie. Alors allons, sous la protection de la très sainte Vierge. » Il est sorti et est passé au milieu des soldats sans être insulté. Mais Dieu lui inspirait de la crainte et du respect. Et puis, ils avaient du respect, les protestants, pour lui quand même. Ils l'aimaient quand même. Mais comme le père reprenait le chemin de Grisch, 20 soldats hérétiques se sont précipités sur lui. Ayant à leur tête un de leurs ministres, et l'un d'eux a crié, « C'est donc toi, malheureux fanatique, qui veux faire le prophète. Eh bien, dis que tu as menti, ou tu vas périr de ma main. » Il y a eu des témoins. Hein? Alors il a répondu, « Je ne vous ai enseigné que la vérité éternelle. » Il a répliqué ça avec une douce et sainte fierté. « C'est la foi de vos ancêtres. Je donnerai volontiers ma vie pour que vous la reconnaissiez. Nous ne sommes pas ici pour raisonner, a repris le soldat. Veux-tu ou non embrasser notre religion ?» Et Saint Marc-Roy a répondu, « J'ai été envoyé au milieu de vous pour vous éclairer et non pour partager vos erreurs. » Alors ce dialogue entre Saint Marc-Roy et ceux qui en veulent à sa vie se continue ainsi, « Rends-toi notre prisonnier, » dit un soldat, « autrement il va t'en coûter la vie. » Et Saint Marc-Roy a répondu, « Je ne crains pas la mort, je défends la vérité qu'ont soutenu les martyrs. Ma cause est la leur, leur sort sera le mien. » Alors un des furieux là, lui a donné alors un coup de sabre sur la tête. Et Saint Marc-Roy en a été terrassé. Il a fait un effort généreux, il s'est relevé, il s'est mis à genoux. Il a mis ses bras en croix et il a dit cette parole que Jésus-Christ a prononcée sur la croix. « Pardonnez, ô mon Dieu, oui, pardonnez à mes ennemis, que la passion aveugle, que la passion aveugle. » Ces hommes-là n'avaient pas toute leur tête à eux, hein. Faut pas les tenir vraiment responsables. Et il l'a dit d'ailleurs, Saint Marc-Roy, « Ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur Jésus, ayez pitié de moi. Marie, Mère de Jésus, assistez-moi. » Et ce sont ses dernières paroles. Il reçoit un autre coup de sabre. Et en même temps, un violent coup de massue lui ouvre le crâne et il tombe étendu à terre, baigné de son sang. Dans son sang. Alors là, ces malheureux protestants craignent qu'il ne soit pas encore mort, il le perce de plusieurs coups d'épée. Il lui tailla de la jambe gauche. Une pauvre femme catholique de Séville s'était accourue au lieu du supplice et après le départ des soldats, elle s'est approchée dans l'espoir de recevoir son dernier soupir, mais le saint est déjà mort le 24 avril 1622. Pendant la journée du 24, le corps est resté exposé aux insultes des protestants. Peu de temps après, le commandant des troupes autrichiennes catholiques, après avoir invoqué le saint martyr, a remporté sur les rebelles une victoire complète et on dit que le ministre protestant qui avait assisté au supplice de fidèles s'est converti. Après le rétablissement de la paix, les capucins de Velkirken sont venus à Séville réclamer le corps de leur ancien gardien, leur ancien supérieur, inhumé dans l'église du village. On a ouvert le tombeau le 13 octobre. Donc, plusieurs mois plus tard, le corps fut trouvé sans corruption. La tête et la jambe gauche avaient été séparées par les meurtriers. On les emporta pour les placer dans de riches reliquaires. Le peuple de Velkirken a reçu avec joie ce précieux trésor. Et un peu plus tard, le corps a été transporté de Séville, où il a été assassiné, à la cathédrale de Coire. C-O-I-R-E. Sur le parcours, les reliques ont préservé d'un incendie, dit-on, la ville de Mayenfeld. Elles ont été reçues à Coire le 18 novembre et de nombreux miracles ont amené la béatification de Saint Marc Roy ou Saint Fidèle de Sigmaringen, de son nom de religion, par Benoît XIII en 1729 et la canonisation par Benoît XIV en 1743. Il y a un siècle, en 1897, les Capucins suisses ont acheté le territoire du martyr, le terrain plutôt du martyr, pardon, et en ont fait, 2 ans plus tard, le centre d'une paroisse missionnaire qui est toujours dépendante du Vatican. J'ai le goût de vous, puisque c'est la semaine des vocations, de prier cette belle prière du pape. Père Saint et source de tout bien, tu es le maître de la vigne et de la moisson, et tu donnes à chacun en même temps que le travail la juste récompense. Dans ton dessein d'amour, tu appelles les hommes à collaborer avec toi pour le salut du monde. Nous te rendons grâce par Jésus-Christ, ta parole vivante, qui nous a rachetés de nos péchés et reste parmi nous pour secourir notre pauvreté. Guide le troupeau à qui tu as promis la possession du royaume. Envoie de nouveaux ouvriers à ta moisson. Communique au cœur des pasteurs fidélité à ton projet de salut, persévérance dans la vocation et sainteté de vie à l'exemple de Saint Marc Roy. Christ Jésus, toi qui sur les rives de la mer de Galilée as appelé les apôtres et les as constitués fondements de l'Église et porteurs de ton Évangile, soutiens dans le présent de l'histoire ton peuple en chemin. Donne courage à ceux que tu appelles à te suivre dans la voie du sacerdoce et de la vie consacrée, pour qu'ils puissent féconder le champ de Dieu de la sagesse de ta parole. De la sagesse de ta parole. Fais-en de dociles instruments de ton amour. Fais-en de dociles instruments de ton amour dans le service quotidien de leurs frères. Esprit de sainteté, toi qui répands tes dons sur tous les croyants et particulièrement sur ceux que tu appelles à être ministres du Christ, aide les jeunes à trouver l'attrait de l'appel divin. Enseigne-leur l'authentique voie de la prière qui se nourrit de la parole de Dieu. Aide-les à scruter les signes des temps pour être de fidèles interprètes de l'Évangile et des porteurs de salut. Marie, Vierge de l'écoute et du Verbe pécheur en ton sein, aide-nous, oui, aide-nous à être disponibles à la parole du Seigneur pour que, écouter et méditer comme tu l'as fait, elle croisse en nos cœurs. Aide-nous à vivre comme toi la béatitude des croyants et à nous consacrer avec une inlassable charité à l'évangélisation de tous ceux qui cherchent ton Fils. Donne-nous de servir tout homme, toute femme. Fais de nous les artisans de l'écoute de la parole pour qu'en lui demeurant fidèle, nous trouvions notre bonheur à la pratiquer. Amen. Il y a une très belle prière de saint Marc Roy, je vous la lis. Mon Sauveur, rendez-moi la joie nécessaire et la paix de mon cœur comme autrefois. Oh, purifiez-moi de mes questions. Purifiez-moi de mes questions. Des gens qui se posent des questions inutiles, purifiez-moi de mes questions. Faites, ô mon Dieu, que votre volonté s'accomplisse, que par vous je triomphe de mon ennemi, de ma personne et de mes passions. Et ça, mon ennemi, et ma personne et mes passions. En effet, puisque vous m'avez donné la vie, ne devrais-je pas commencer par mourir à moi-même? Quel malheur si je combats mollement sous un chef couronné d'épines. Oui, vous êtes un chef couronné d'épines. Allons où la grâce divine nous appelle. La moisson presse. Quelle belle prière de ce saint Marc Roy. Elle ressemble beaucoup aux prières que formule sans doute M. l'abbé Marc Roy.